ternir l'image de l'extrême droite en général comme idéologie, en montrer le côté dangereux et être défavorable aux partis d'extrême droite comme le Vlaams Belang sur le champ politique. Mais si on regarde ce qui s'est passé, on peut remarquer que c'est pas le cas dans le passé, pire même, que c'est plutôt l'inverse. Prenons le cas Jürgen Konings, vous en souvenez bien, ce militaire radicalisé qui s'est enfui avec des armes dans les bois en menaçant le gouvernement et le virologue Mark Van Ranst avant d'être retrouvé mort, suicidé. Son cas avait suscité beaucoup d'indignation, de questions légitimes sur la surveillance de l'armée, etc., mais aussi beaucoup de soutien sur des groupes Facebook, des manifestations. Le suspect décédé hier faisait d'ailleurs partie d'un de ces groupes de soutien, selon Tlastenis. Plusieurs représentants du Vlaams Belang avaient ouvertement eux aussi soutenu Jürgen Konings, et les sondages qui ont suivi l'affaire ont confirmé les très bons scores du parti, plus de 25% des voix.
Ça veut dire, Bertrand, que le lien entre violence et extrême droite ne dissuade pas les électeurs?
Non. Prenons le cas de Skildenvrienden, la révélation par la VRT d'un groupe de jeunes identitaires ouvertement raciste et haineux. La révélation, là aussi, avait suscité une vague d'inquiétude dans l'opinion, mais aussi une vague de soutien. Le Vlaams Belang l'a encore une fois bien compris. Il a recruté, en toute connaissance de cause, le président de cette association, Dries Van Langenhoff, qui était élu. Il est d'ailleurs aussi poursuivi pour incitation à la haine en correctionnel. Le Vlaams Belang le savait. Et quoi qu'il arrive, il y gagnera. Si en justice il n'est pas condamné, il pourra triompher. S'il est condamné, il pourra se victimiser. Enfin, un troisième exemple encore plus parlant, la tuerie raciste d'Anvers de 2006, où Hans van Temsch tue deux personnes et en blesse une troisième. Il avoue, lors de son procès, avoir voulu tuer le plus d'étrangers possible. C'est assumé. Il est issu d'une famille nationaliste flamande. Son grand-père avait combattu sur le front de l'Est. Son père est l'un des fondateurs du Vlaams Belang et sa tante était élue du parti. Là, s'il y a bien un cas où un acte de violence pouvait être relié à une idéologie et au Vlaams Belang, eh bien c'était celui-là. Écoutez d'ailleurs Bart Somers, président du VLD à la VRT, quelques jours après les crimes.
Si année après année, vous ne faites que stigmatiser la communauté allochtone, vous en faites un bouc émissaire en plus, vous crachez systématiquement dessus dans toutes vos publications, sans aucune nuance. Alors vous créez une société peuplée de gens instables, disons des cas presque psychiatriques, qui sont peut-être capables de faire des choses graves. Et j'y vois là une responsabilité très forte, voire écrasante, du Vlaams Belang.
Wel degelijk een verpletterende verantwoordelijkheid voor het Vlaams Belang. Samenleving.
On peut dire, Bertrand, que Bart Somers n'a pas été entendu?
Du tout. Quelques mois après ces tueries, 94 000 voix aux élections à Anvers, le plus gros score du parti du Vlaams Belang. Encore quelques mois plus tard, 800 000 voix aux élections fédérales de 2007, le plus gros score du parti, battu seulement de peu en 2019.
Ouais. La violence liée à l'extrême droite ne nuit pas à l'extrême droite dans l'espace politique et dans les urnes. C'est une règle, ça semble être une règle.
Sur le passé, c'est une règle, effectivement. Difficile ici de se lancer dans une sorte de psychologie des électeurs. On peut supposer que la violence joue un rôle de repoussoir pour une partie des électeurs qui ne franchissent pas le cap de l'extrême droite à cause de ça. Mais les résultats électoraux du Belang prouvent que pour près d'un quart des électeurs en Flandre, cet effet ne joue pas. Alors là, il y a deux hypothèses. Soit les électeurs découplent l'effet du Vlaams Belang, ils n'associent pas le terrorisme de l'extrême droite au Vlaams Belang, soit pour eux, la violence est légitime ou non problématique, en tout cas. Et en fait, ce qui est intéressant de noter, c'est que le Vlaams Belang cultive en fait l'ambiguïté pour garder les deux hypothèses ouvertes et appâter un maximum d'électeurs. Pour en revenir donc au cas qui nous occupe, non, la révélation de cette menace d'un terrorisme d'extrême droite à Anvers ne fera pas baisser le Vlaams Belang. Le passé nous dit même que ça pourrait être l'inverse.
À voir dans les urnes en 2024. Merci beaucoup.
Dantine, criminologue, professeur à l'université de Liège. Il est membre du Centre d'études sur le terrorisme et la radicalisation. La menace terroriste a-t-elle mué? Qu'est-ce qui l'alimente chez nous? 62 individus sont donc actuellement fichés pour extrémistes de droite par les services de sécurité. Une banque de données commune, hein, c'est son nom, compte de plus de 700 personnes, en fait. Le service de sécurité, après l'affaire Konings, ont-ils tiré les leçons? A-t-on déjoué un attentat hier? On rappelle, hein, Jürgen Konings, ce tireur d'élite de l'armée belge, qui fut traqué pendant un mois entre mai et juin 2021 pour avoir proféré des menaces contre l'État belge et le virologue Mark Van Ranst.
Bonjour Michael Dantine.
Bonjour.
Cette opération hier à Anvers pour déjouer un attentat, est-ce que c'est la preuve que la menace extrémiste de droite augmente chez nous en Belgique?
Oui, absolument. Tous les indicateurs le prouvent, tous les rapports des autorités concernées, dont par exemple chez nous l'OCAM le démontre. Alors ce n'est pas la menace terroriste principale qui reste dans notre pays, la menace djihadiste, dans une menace qui globalement n'enfle pas. La cote-part, si vous voulez, de l'extrême droite augmente dans une certaine forme de diversité de l'extrême droite et également vraisemblablement avec la vision d'individus nourris par ces idées d'extrême droite qui se rapprochent d'un passage à l'acte parce qu'il y a évidemment tout un chemin entre adhérer à des idées et éventuellement les traduire en actes violents.
Comment expliquer cette augmentation? C'est le contexte post-crise sanitaire? C'est les crises de manière générale qui s'enchaînent? Comment l'expliquer?
Si vous voulez, il y a une espèce de trépied de la radicalisation, d'ailleurs pour toutes les idéologies radicales, qui se jouent entre un niveau d'insatisfaction par rapport à sa propre vie qui est fort, un niveau d'incompréhension par rapport à sa vie, par rapport à la société, par rapport à la planète, et elle est très 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 difficile à lire. Et donc vous comprenez bien que toutes les crises sanitaires, économiques qui sont en train de se tisser avec cette inflation galopante, et tout ça engendre un niveau d'anxiété, vous mélangez le tout, et vous avez alors une porte qui s'ouvre sur l'adhésion à des idéologies comme celle de l'extrême droite qui vont donner des réponses simples et des correctifs simples. C'est de la faute des étrangers, c'est de la faute, donc c'est la xénophobie du racisme, c'est la faute des juifs, c'est l'antisémitisme, c'est la faute des élites, c'est des anti-élites. Et le correctif, si on le pousse jusqu'au bout, c'est qu'il faut les atteindre, se retrancher sur soi-même. Et donc il y a quelque chose qui se joue, si vous voulez, au sein de ce trépied vraisemblablement en ce moment.
Alors, vous expliquez dans vos recherches qu'on ose davantage aujourd'hui affirmer son appartenance à l'extrême droite, notamment sur les réseaux sociaux, et donc potentiellement à des actions violentes. C'est ça aussi qui explique peut-être qu'un individu seul arrive à rassembler des groupes. Hier, c'était un coup de filet sur un ensemble d'individus, il n'y avait pas qu'un individu qui était visé.
Oui, une des caractéristiques de l'extrême droite, et on vient de l'évoquer dans la chronique de Bertrand Hein, c'est de naviguer, si vous voulez, aux marges d'un certain nombre de groupes structurés qui se prennent évidemment bien garde de les récupérer officiellement pour jouer sur les deux tableaux comme ça a été expliqué. Mais évidemment, les applications technologiques vous permettent de vous regrouper sans réellement vous regrouper. Et le volet politique catalyseur, si vous voulez, de l'extrême droite qu'on a vu pousser partout, près de chez nous et très loin de chez nous, pensons à ce qui se passe au Brésil, ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui peut-être se passera encore là-bas, fait en sorte de décomplexer. Et il ne faut pas non plus oublier que chez ceux qui adhèrent à ces idées d'extrême droite et qui sont souvent aussi, parce que ça fonctionne très bien ensemble, nourris à toute une série de théories du complot au point que l'un devient peut-être indissociable de l'autre, ont une espèce de pression à l'exprimer. Il y a vraiment une pression interne de « il faut en parler ». Et alors c'est le volet un peu « heureux » entre guillemets des choses, c'est que évidemment, voulant en parler, on se donne à être vu, ce qui permet parfois aux autorités, comme on l'a vu ici, d'intervenir vraisemblablement à temps.
Ce qui les expose est d'ailleurs de manière totalement publique, hein, parce que l'analyse des messages de l'homme abattu sur les réseaux sociaux indique qu'il appartient à ce qu'on appelle une mouvance survivaliste et souverainiste. De quoi parle-t-on, Michael Dantine, quand on parle de ces termes-là?
Eh bien, précisément, on a quelque chose d'un peu patchwork, et ça aussi, c'est une évolution de la menace. Sur un tapis d'extrême droite, avec toutes les caractéristiques qu'on a déjà évoquées, vous avez une dimension souverainiste. Le souverainisme, pour faire simple, c'est considérer que nous avons, nous, êtres humains, des droits humains, des droits naturels, qui sont supérieurs à tout ce que l'État et les lois peuvent nous donner. Donc je prends ce que je veux, et l'État est complètement discrédité. Cet État, il aurait d'ailleurs un grand projet, celui de nous asservir, celui d'organiser, on y revient, un grand remplacement, ce qui va donner lieu, si vous voulez, à une guerre des races. Cette guerre, elle est imminente, donc si j'adhère à ça, je prends des mesures, je fais des provisions, évidemment je m'arme, j'apprends à me défendre, je m'aguerris aux techniques de survie. La tendance souverainiste, elle est décrite aux États-Unis depuis quelques années comme quelque chose d'extrêmement dangereux. Elle a percolé dans le monde anglo-saxon, puis est venue en Europe. En Belgique, il n'y a pas tellement longtemps, on disait « on n'a rien de proche, mais on suit rien de proche d'un passage à l'acte ». Peut-être que là, on a malheureusement un triste et premier exemple de ce type de motivation.
Et ce qui frappe dans les différents communiqués du parquet fédéral hier, c'est le nombre d'armes saisies, une accumulation, plus d'une centaine, expliquent les autorités. Ça aussi, ça vous surprend, ce lien entre extrême droite, amateur d'armes, vous l'avez évoqué, mais qu'un homme, ce profil-là, puisse avoir autant d'armes chez lui, certaines étaient déclaré. D'autre part, le ministre hier sur la VRT explique qu'un homme fiché par les services de sécurité normalement n'a pas d'autorisation de port d'armes, sauf si les autorités lui laissent justement pour voir comment, pour l'observer entre guillemets dans ses activités. Comment vous décodez ce profil alors?
Là, il semble y avoir en plus un élément qui est encore plus dangereux, c'est pas juste la possession d'armes, mais c'est vraiment une fascination pour les armes. Et cette fascination pour les armes, souvent c'est une fascination pour la violence, et ça c'est prototypique, si vous voulez, du radical extrémiste qui est potentiellement un passeur à l'acte. Donc ça c'est un premier élément. Deuxième élément, effectivement en Belgique on peut détenir des armes sous licence, hein, sous permis.
Et un homme fiché peut aussi détenir une arme ?
Ah, normalement, non. Il peut évidemment, lui aussi, se fournir sur le marché illégal dans quelqu'un, on ne sait pas le contrôler. Maintenant, et cela a été, je pense, expliqué par les autorités hier, vous savez que dans une enquête de renseignement et puis de police et judiciaire, il y a un moment où il faut passer le coup de filet. On ne veut pas intervenir trop tôt pour ne pas éviter de ne pas prendre dans le filet de l'enquête un certain nombre d'individus qu'on raterait, mais on est hanté aussi par l'idée d'intervenir trop tard et donc de s'exposer à un fait particulièrement victimisant. Et parfois, on laisse un petit peu aller, si vous voulez, pour continuer à surveiller en jouant sur cette ligne de crête qui peut être dangereuse, mais qui est une nécessité, un impératif de l'enquête.
Un coup de filet des autorités avant, donc peut-être un attentat. On a tiré les leçons de l'affaire Konings qui avait démontré des failles dans les services de renseignement, à la fois civils, mais aussi et surtout militaires, dans ce cas-là, de l'affaire Konings.
Ici, bien évidemment, on a souvent tendance à brocarder, si vous voulez, les services de renseignement, les services de police, la justice, quand quelque chose survient. Et on en vient souvent à réfléchir à cette survenance, à l'aune de qu'est-ce qu'ils ont raté, même parfois en oubliant que les principaux responsables sont les coupables. Ici, on a un exemple, comme on l'a eu d'ailleurs dans la tentative de kidnapping avorté du ministre Van Quickenborne, vraisemblablement de ce qui est une réussite de collaboration. Ça veut dire que on avance, qu'on a bien échangé l'information et qu'on a su l'analyser de la juste manière.
Alors vous venez de l'évoquer, Michael Dantine, l'autre dossier qui a marqué la semaine, hein, cette tentative d'enlèvement d'un ponte du gouvernement, le ministre de la Justice, sur fond de recrudescence de violences liées au trafic de drogue ces derniers mois. Écoutez Vincent Van Quickenborne.
Je pense qu'on est arrivé dans une nouvelle situation. C'est la situation du narcoterrorisme. C'est le monde souterrain criminel qui essaie de déstabiliser la société et qui essaie de s'en emparer. C'est une lutte qu'on mène depuis le début de ce gouvernement avec beaucoup de conviction.
Ce terme narcoterrorisme, Michael Dantine, est-ce qu'il est adéquat ?
Pour moi, non. Je laisse au ministre la responsabilité de ces déclarations. Elles sont peut-être politiquement, électoralement porteuses. C'est lui qui le voit. De même qu'on a utilisé narco-État, moi je pense qu'il faut rester calme dans les appellations qu'on utilise. Et précisément, je crois qu'il faut quand même bien garder à l'esprit une boussole. Même s'il y a des bypass entre les deux phénomènes, le narcotrafic et le terrorisme, les narcotrafiquants, comme l'ensemble des criminels organisés, la criminalité organisée, ce n'est pas que le narcotrafic et encore moins que le trafic de cocaïne, ils sont là pour faire du profit. Les terroristes, eux, ils sont là pour peut-être avoir besoin d'argent, mais pour mener à bien des opérations de terreur, pour faire résonner une idéologie, c'est fondamentalement différent. Donc, pour moi, la tentative de kidnapping, ce n'est pas le narcoterrorisme que soutient le ministre, que ça t'a donné à voir. C'est un coin du voile qui est levé sur ce qu'est la criminalité organisée en général, le trafic de drogue en particulier, et comment ça concerne notre pays et Anvers encore plus en particulier.
Alors cette affaire de trafic de drogue n'est en rien liée à l'affaire dont on parlait sur l'extrémisme mais de droite. Venons quand même justement à cette question de la criminalité organisée. Avec cet événement, tentative d'enlèvement sur un ministre de la Justice, est-ce qu'on est en train de découvrir, le grand public est en train de découvrir un phénomène dont on ne prenait pas totalement la mesure en Belgique, Michael Dantine?
Ah oui, parce que en réalité, ce phénomène de la criminalité organisée, d'habitude, il est très silencieux, très discret. Les organisations, les réseaux criminels n'utilisent pas la violence et lui préfèrent l'intimidation parce que la violence, ça les expose, ça les rend visibles et ça focalise l'attention des autorités. Donc
et donc c'est en train de gangréner l'État tout de même, la Belgique ?
Je ne dirais pas que c'est en train de gangréner l'État parce que si même il y a des problèmes qu'il ne faut pas nier, on n'est pas non plus dans une république bananière dans laquelle tous les politiciens seraient corrompus, hein, comme j'ai eu l'occasion de le dire, ce qui m'aurait indiqué un narco-État par exemple. Ce n'est pas tellement qu'on a essayé de kidnapper, et c'est grave, hein, je ne le nie pas, le ministre de la Justice, mais c'est qu'il aurait été arrêté pour des affaires de corruption parce qu'il aurait touché de l'argent des narcotrafiquants. Ça aurait été inquiétant. Maintenant, maintenant, le narcotrafic, ça génère extrêmement d'argent. À Anvers, il y a un énorme problème, comme dans tous les grands ports maritimes, et vraiment une économie parallèle qui s'est mise à infiltrer ce port. Ça, ce sont des réalités. Il ne faut pas nier l'importance et les enjeux de cette criminalité organisée. Et donc, il faut s'y attacher. C'est vraiment quelque chose de très fort.
C'est très fort, Michael Dantine. Et est-ce qu'on y met les moyens, que ce soit pour cette criminalité organisée, que ce soit d'ailleurs sur la lutte contre l'extrémisme? Les services de sécurité en appellent à plus de moyens. Est-ce qu'ils sont entendus selon vous?
Ah ben j'ai l'impression qu'en tout cas, si on les écoute, ils ne le sont pas. Et il est bien clair que si l'on compare les moyens des réseaux criminels en termes d'argent, en termes de ressources humaines, et compte tenu du fait qu'eux ne doivent pas respecter la loi, ce qui est une entrave entre guillemets importante, ils ont un avantage qui est de non pas un ou deux, mais de quatre ou cinq coups d'avance sur les services de police, de renseignement et de justice. Donc on doit combler ça. On a fait une opération de démantèlement avec Sky ici. On a pompé, extrait énormément de messages. Si vous ne mettez pas des moyens pour les déchiffrer et pour faire des suites d'enquête, vous n'arrivez à rien, même si je m'empresse de dire qu'on a déjà eu pas mal de réalisations positives d'arrestations, de saisies grâce à cette enquête.
Oui, le port d'Anvers, qui est donc la porte d'entrée de cette cocaïne en Belgique, on y a saisi l'essentiel des 90 tonnes en 2021 dans notre pays pour un prix à la revente estimé à 4,5 milliards d'euros. Merci beaucoup.